Bonsoir. L'Assemblée nationale a voté hier mercredi pour la prorogation de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Ce vote intervient une semaine après la tournée dans ces deux provinces du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le chef du gouvernement était parti pour faire une évaluation de l'état de siège 15 mois après son instauration dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de son séjour dans ces deux provinces, certaines couches de la population et certains députés ont réclamé la levée de l'état de siège car les objectifs attendus n'ont pas été atteints, d'autant plus que l'insécurité continue à se généraliser, notamment les ADEF qui s'étendent de plus en plus. Ils proposent une requalification de l'état de siège et demandent que le pouvoir soit restitué aux civils. D'autres, cependant, ont indiqué que la levée de l'état de siège n'est pas la solution aussi longtemps que les tueries persistent. Que pensez-vous du débat autour de la levée ou non de l'état des sièges? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 29 septembre 2022. Participe au débat Mouindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est un élu de la province du Nord Kivu. Mouindo Nzangi, bonsoir.
Bonsoir.
Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri, au sein du regroupement politique Mouvement Social, MS en sigle, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il fait partie de la commission suivi et exécution des recommandations au sein de l'Assemblée nationale. Gracien de Saint-Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Maître Rigen Miviri, bonsoir.
Bonsoir.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, les députés nationaux ont voté mercredi 28 septembre le projet de loi relatif à la prorogation de l'état des sièges pour 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Reportage grâce à Mzati.
Les élus nationaux se sont ainsi prononcés après avoir auditionné l'exposé présenté par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Au cours du débat qui s'en est suivi, certains d'entre eux ont émis le vœu de voir le gouvernement de la République continuer à reconduire cette mesure prise l'année dernière par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour permettre aux forces armées de la RDC d'en finir avec les groupes armés qui sèment la terreur dans l'est du territoire national. Par contre, d'autres députés ont souhaité voir le gouvernement mettre en place des mécanismes pouvant permettre une fin progressive de l'état de siège pour ne pas blesser certaines sensibilités, tandis que les plus catégoriques ont plaidé pour sa suppression pure et simple. Par ailleurs, les députés nationaux ont également voté lors de la plénière d'hier 21 projets de loi portant ratification des ordonnances-lois prises par l'exécutif national dans le cadre de la loi d'habilitation du gouvernement pendant les vacances parlementaires.
Merci Grâce Amzati pour ce reportage. Mouindo Nzangi, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes élu de la province du Nord Kivu. Il y a ce débat autour de la levée ou non de l'état de siège lors de sa tournée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le premier ministre Sama Lukonde a rencontré presque toutes les couches de la population et les avis divergent autour de la levée ou non de l'état de siège. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez, M. Mouindo Nzangi? Faut-il aujourd'hui, oui ou non, lever l'état des sièges?
Bon, je vais d'abord parler en tant que membre du gouvernement. Donc, il y a solidarité avec le gouvernement. Et la question qui se pose aujourd'hui n'est pas celle de savoir est-ce qu'on est pour ou contre la levée de l'état des sièges. Je crois que la question pourrait se poser autrement. La question est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin aux tueries? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin aux groupes armés? Qu'est-ce qu'on fait pour attaquer les M23? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo? Moi, je pose le problème dans ce sens-là.
Mais parce l'état de siège a été instauré, justement. L'état de siège a été instauré pour mettre fin à l'insécurité, les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Certains députés ou même une partie de la population estiment que cela n'a pas marché. Il faut mettre fin à cela et penser à autre chose.
Bien évidemment, c'est pour ça que je voulais vraiment préciser le cadre pour vous dire qu'il n'y a pas que l'état de siège. Vous savez que les tueries, par exemple, à territoire de Beni, ont commencé avec cette ampleur ici à partir de 2014. De 2014 à 2018, moi, j'ai fait plusieurs missions dans cette région et le problème de la population, c'était comment on rétablit la sécurité. À cette époque, il n'y a pas eu assez de grandes initiatives ou de grandes formules pour mettre fin à cette sécurité. En 2019, on a eu un nouveau président. Et le président a donné une promesse à Beni, à la population, qu'il allait faire tous les moyens possibles pour mettre fin à la guerre. La première opération qu'il a initiée, c'est l'opération de grande envergure, qui a commencé au mois de décembre 2019. Parce que les militaires, à cette époque, se plaignaient qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour mettre fin à cette sécurité. Le chef de l'État a mis des moyens. Nous sommes partis là-bas en tant que députés pour appuyer les militaires à cette grande opération d'Avergir. Six mois après, cette opération a échoué, n'a pas réussi. Les forces armées ont demandé effectivement d'avoir la plénitude de pouvoir pour les aider à exercer les fonctions administratives, politiques et militaires pour qu'ils ferment l'ensemble de cette question dans ce qu'on a appelé l'état de siège aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas hésité parce que motivé par la volonté de mettre fin à cette sécurité, il a donc adhéré à cette proposition et il a nommé le gouverneur militaire dans ce qu'on a comme état de siège. Nous n'avons pas encore les rapports d'évaluation que le Premier ministre a pu faire sur le terrain, mais il se fait que, au niveau de la population, elle ne perçoit pas la différence à terme d'indicateurs de sécurité entre l'avant état de siège et l'après état de siège. Ça reste la même chose. Ce n'est pas que la population dit qu'avant l'état de siège c'était mieux qu'aujourd'hui, c'est plus que la population dit effectivement qu'elle ne voit pas les résultats de l'état de siège parce que les tueries telles qu'elles étaient exercées avant, elles s'exercent jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on se trouve.
Mais monsieur le ministre,
l'état de siège et trouvons un autre moyen pour mettre fin à la guerre. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Monsieur le ministre, selon certaines sources, les tueries se sont amplifiées avec l'état de siège, contrairement à l'avant-état de siège.
Je ne le dirai pas à ce terme-là, parce que moi j'ai été à Beni en 2018. Je connais la situation qu'il y avait dans la ville de Beni à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, puisqu'on a quand même réussi à empêcher les tueries à l'intérieur de la ville de Beni. Mais je ne dis pas que ça, c'est le résultat de l'état de siège. Il y avait autant de tueries qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, la question ne doit pas se poser en termes de comparaison entre l'avant état de siège et l'après état de siège. Moi, je crois que la question que nous devons nous poser, c'est-à-dire, à chaque gouvernement, qu'est-ce que nous proposons comme mécanisme aujourd'hui pour mettre fin à ça? Et là, nous avons des réponses qu'on peut donner, la perspective que le gouvernement a pour essayer de remplacer l'état de siège par autre chose. C'est autre chose.
Ça serait quoi, ce autre chose?
De mettre fin à la guerre.
Ce autre chose serait quoi, monsieur le ministre?
Vous avez suivi que le conseil des ministres a adopté le plan de redressement de l'armée. Parce qu'on sera en évidence que les forces armées de la République démocratique du Congo, telles qu'elles existent aujourd'hui, ont des tâches qui ne leur permettent pas de pouvoir mettre fin à cette guerre. On ne peut pas rétablir l'autorité de l'État si on n'a pas une armée bien structurée, bien coordonnée, une armée qui fonctionne comme un système qui permet effectivement d'alerter, de défendre la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons adopté au gouvernement ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Cette loi va nous permettre, comme le chef de l'État l'a dit aux Nations Unies, d'avoir une montée en puissance de notre armée pour qu'elle soit capable d'avoir une force dissuasive et une force de percussion capable de mettre fin à ces genres de groupes armés et à la sécurité. C'est ça la grande orientation que nous avons à chaque gouvernement aujourd'hui pour dire qu'au centre de l'Assemblée des moyens, sur la formation d'une nouvelle armée capable de défendre la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est ça qui va être la réponse à toutes ces questions, à toutes ces pratiques, à toutes ces théories ou à toutes ces options qui ont été prises jusqu'à présent et qui ont montré les limites.
Est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour le redressement de l'armée?
Et c'est effectivement à ça que le gouvernement, le chef de l'État l'a dit, qu'il se donne le moyen de pouvoir orienter l'ensemble des ressources au niveau de l'armée. Nous avons voté la loi de programmation militaire et je suis sûr que hier les députés ont eu à ratifier le texte qui a été fait et qu'ils voient que nous avons essayé de mettre l'ensemble des moyens pour recruter le maximum de jeunes, le maximum de Congolais qui vont être mis dans les conditions de pouvoir défendre la République démocratique du Congo, puisque sur le terrain, évidemment, la question qui est de savoir qu'est-ce qu'on a comme effectif, qu'est-ce qu'on a comme système, qu'est-ce qu'on a comme financement. Et c'est ce genre de questions que nous sommes en train de vouloir répondre pour mettre fin immédiatement à cette question.
Alors, monsieur le ministre, il y a une partie de la population et même certains élus qui demandent à ce que le pouvoir soit restitué aux civils. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je crois que ça, c'est un débat secondaire. L'état de siège n'a jamais été instauré pour un temps illimité. Et donc, je crois qu'à un moment donné, on va devoir se rendre à l'évidence qu'il faut retourner les civils à leur poste. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la question. La question principale, c'est de savoir quelles sont les mesures que nous prenons pour mettre fin à la guerre. Les gouverneurs civils étaient là avant, les gens étaient tués tous les jours. Donc, ce n'est pas ça la solution.
Le gouverneur militaire est là, les gens sont toujours tués.
Bien évidemment, l'état de siège a un temps, et après ce temps-là, les gouverneurs civils devront reprendre.
Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia, en Ituri, au sein du regroupement politique Mouvement Social. Vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous faites partie de la commission suivie et exécution des recommandations au sein de l'Assemblée nationale. Votre point de vue sur ces débats autour de l'état de siège, faut-il lever ou non cet état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Ça prend une année depuis que c'était l'état des sièges a été instauré.
Non, je pense que nous avons déjà dépassé une année.
Plus d'une année, oui, voilà. C'est plus d'une année.
Alors, vous savez que depuis déjà l'évaluation qu'on a fait 3 mois après l'état des sièges, après le démarrage de l'état des sièges, on avait déjà rendu des résolutions selon lesquelles il fallait un plan de sortie de l'état des sièges. Ça, c'était une assemblée, une résolution qui a été adoptée, votée à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Donc, il fallait les plans de sortie avant la 10e prorogation. Et il y avait beaucoup de mesures. Par exemple, aller concentrer les efforts dans les zones où il y avait l'insécurité. Le gouvernement n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce que nous étions en train de dire. Et pourtant, il y avait des experts de l'armée et même du gouvernement qui étaient avec nous qui ont compris qu'avec les dates des sièges, on ne pouvait pas trouver directement la solution. Alors, après, il y a eu une autre évaluation entre la commission de défense sécurité avec le gouvernement qui sont allés sur terrain, à Ituri comme au Nord Kivu. Et là aussi, ils ont trouvé qu'il fallait lever l'état de siège parce que les bilans étaient mitigés. Ils n'ont pas levé l'état de siège. Récemment, le premier ministre, il est allé à Ituri, il est allé au Nord Kivu. Partout, on lui a dit que nous ne voulons plus de l'état de siège et voilà qu'il n'a pris aucune action. C'est vraiment un mépris à l'endroit du peuple. Donc, il faut, je pense à mon avis, il ne faut pas sous-estimer cette question de l'état de siège parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir qui est entre les mains des militaires. Et vous savez, avec l'état de siège, contrairement à ce que le ministre vient de dire, vous savez que l'état de siège, c'est un état d'exception qui fait en sorte que le pouvoir est aux militaires et il y a la restriction des droits, il y a la restriction des libertés. Je ne sais pas si le ministre n'est pas informé qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, torturés par les militaires. Expressément, aujourd'hui, nos prisons sont remplies parfois des dossiers qui ne devraient pas l'être, tout simplement parce que les militaires ont les pouvoirs. Mais bon, là, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, pourquoi l'état de siège n'est pas à mesure d'être levé? Il fallait qu'on lève. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous, on est en train de penser finalement qu'il y a un autre agenda caché avec cet état de siège. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, la population qui est le souverain primaire, la population qui est le chef suprême, veut qu'on lève, mais on ne veut pas le faire. Donc,
mais pourquoi vous voulez qu'on lève cet état de siège alors que les tueries continuent dans les deux provinces, Gratien de Saint-Nicolas et Ratchan?
Oui, effectivement, si vous faites une étude comparative avec l'état de siège, donc avant et après état de siège, vous allez trouver que si vous faites au moins ce temps où l'armée est restée diriger les choses, vous trouverez qu'il y a eu beaucoup plus de décès qu'avant. Bon, si on minimise ces décès-là, disant que même avant, depuis 2014, il y avait toujours des tueries, mais pourquoi l'armée ne peut pas mettre fin? Parce que l'armée est allée aujourd'hui pour mettre fin à une situation donnée. Et le législateur a mis 30 jours pour qu'on finisse, parce que c'est un état d'exception où on prive les gens de liberté. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Nous, on a prorogé une fois, deux fois. Aujourd'hui, on ne sait même pas compter, on est à la quatrième prorogation, parce qu'on ne sait pas évaluer le travail qui est fait. Mais la population qui vit au jour le jour, qui sait aujourd'hui la situation, les bilans, si elle en a assez, je pense qu'il faut les laisser, parce que quand vous faites l'étude comparative, comme je disais, vous trouverez que les axes routiers qui étaient avant ouverts, aujourd'hui sont bloqués complètement, que ce soit en Ituri, que ce soit en Nord-Kivu, il n'y avait pas une partie du pays entre les mains des MV3. Aujourd'hui, avec l'état de siège, il y a justement cette situation-là. Vous trouvez aujourd'hui le nombre de groupes armés qui ont triplé, quadruplé ou quadruplé. Donc c'est un problème que nous sommes en train d'avoir. Donc on ne peut pas parler seulement des recettes, comme on dit qu'il y a hausse des recettes, mais il faut voir la situation en face. Mais aussi, moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit même hier à l'Assemblée nationale, on a remis les pouvoirs entre les mains des militaires, les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers. Et vous savez qu'un militaire qui détient l'argent, un militaire qui détient la politique, c'est extrêmement dangereux, parce que nous sommes dans une institution de démocratie et ces militaires peuvent peuvent renverser les institutions démocratiques. Je l'ai toujours dit, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma quand on a arrêté un groupe d'officiers. Donc il faut vraiment qu'on soit prudent et tout ça c'est parce que c'est un état de siège prolongé qui ne prend pas fin.
Gratien de Saint-Nicolas, il y a Patrick Varane Denzunga qui nous écrit depuis Bunia. Il pense que cette visite dans les deux provinces était une marche de santé qui a finalement abouti à une décision presque unilatérale de la prorogation de l'état de siège. Les députés jouent à l'hypocrisie. Là, ils s'adressent à vous, députés. Devant la population, vous clamez tout haut la levée de cet état de siège, mais quand il faut qu'ils prennent leur pouvoir en main, ils passent outre mesure et soutiennent la continuité de ce dernier. Pendant ce temps, les résultats attendus restent encore une utopie, en ce sens que les massacres s'accentuent. Le trésor public est contrôlé par un groupe d'individus qui règne en maître souverain. Cet état de siège est une prise en otage de ces deux provinces qui demeurent jusqu'à preuve du contraire le théâtre des tueries.
Bon, dire que c'est une promenade de santé, c'est trop fort, mais il y a aussi des contextes qui font en sorte qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il va sur le terrain et il ne veut pas prendre des décisions directement. C'est là où nous sommes en train de chercher à comprendre pourquoi il ne veut pas prendre des décisions. Mais aussi, il faut faire la part des choses comme l'auditeur.
Parce qu'il doit prendre la décision seul.
Oui, justement, je voulais expliquer qu'il faut faire aussi la part des choses, parce que pour lever l'état de siège, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la présidence de la République, c'est en fait l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous avons demandé hier à l'Assemblée nationale que nous puissions multiplier l'évaluation. Mais pour le moment, on a fait déjà 3 évaluations, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale. Si on fait les cumuls, les résultats sont mitigés. Donc, il faut penser à une autre stratégie. Ce qui se passe est que, effectivement, la population ne se retrouve plus avec cette état de siège, parce que ça crée plus de mal que du bien pour la population. Donc l'auditeur, c'est vrai qu'il a raison de dire qu'on n'est pas en train de suivre, mais il faut qu'il comprenne aussi que quand vous prenez le total des députés de Nord Kivu et de l'Ituri, en Ituri nous sommes 28, au Nord Kivu je pense bien qu'ils sont 48 ou combien, vous totalisez, on est moins de 100 députés. Et donc moins de 100 députés, vous ne pouvez pas changer une situation, parce qu'à l'Assemblée nationale, on doit voter au moins à la majorité absolue. Donc, il faut que tous les pays, tous les députés comprennent que la situation, elle ne va pas bien, elle n'a pas trouvé l'assentiment de la population et qu'il faut changer. Mais nous avons déjà présenté
alors,
ça
plusieurs fois. Alors, il faut réqualifier l'état de siège ou il faut lever l'état de siège?
Madame, l'évaluation de l'État, la première évaluation que nous avons faite avec des experts ont démontré que la RDC jusqu'à présent ne pouvait pas résoudre la situation des conflits à l'Est à travers l'état de siège. Il y a eu beaucoup d'experts qui ont discuté à cette affaire-là. Et on a trouvé la résolution qu'il fallait d'abord lever l'état de siège avant la 10e prorogation et par la suite concentrer les efforts dans les zones où il y avait l'insécurité. Je me réjouis si le gouvernement aujourd'hui est en train de penser à cette solution. Mais entre-temps, ils n'ont pas écouté le peuple. Et je dis toujours que c'est dangereux d'entrer en contradiction avec la population quand on veut diriger cette même population dans un régime de démocratie.
Maître Rigen Mouviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, votre commentaire sur ces débats autour de la levée ou non de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Merci madame pour la parole. Tout d'abord, je voudrais peut-être revenir sur certains faits par rapport à l'état de siège. Parce qu'il a été dit ici qu'il n'y avait pas d'indicateurs qui montraient que la situation a empiré pendant ces moments de l'état de siège. Je voudrais peut-être rappeler qu'il y a eu quand même une hausse de nombre de victimes, sur terrain. Il y a eu baisse des opérations sur terrain. Et il y a eu aussi expansion du rayon d'action, surtout des ADF, qui se sont étendus du Nord Kivu vers l'Ituri et dans la région de Beni, ils ont étendu leur zone à d'autres secteurs qui jusque-là n'étaient pas touchés. Donc, en termes d'indicateurs, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après état de siège et cet avant et après état de siège, cette évaluation n'est pas fameuse, bien sûr. Il y a eu plus de morts qu'avant l'état de siège. Mais cela dit, on ne peut pas dire tout simplement que c'est à cause de l'état de siège. Mais en tout cas, on peut dire clairement que l'état de siège n'a pas empêché qu'il y ait cette hausse des victimes. Mais aussi, en fait, il y a eu les ressources militaires qui ont été concentrées ailleurs. Au lieu que les militaires puissent être concentrés au front, ils se sont occupés plus des tâches administratives et cela s'est fait ressentir sur le terrain. Donc, bien sûr, l'état de siège a eu un effet peut-être négatif sur les conflits.
Mais ça a quand même augmenté les recettes dans les deux provinces. C'est féliciter le chef de l'État.
Oui, peut-être, mais ce n'est pas là où on attendait l'état de siège. L'état de siège a été mis comme une mesure spéciale, exceptionnelle, pour plutôt faire face à l'insécurité. Et donc, c'est là qu'il faut l'évaluer. C'est pas ailleurs, en fait. Parce que même quand on parle aussi de recettes, ça reste aussi discutable. Ça reste discutable parce qu'en fait, il n'y a pas d'assemblée provinciale ni au Nord Kivu ni à Ituri qui soit en train de travailler. Donc, on ne sait pas évaluer. Donc, c'est eux-mêmes qui c'est les pouvoirs militaires qui les disent. Mais il n'y a pas eu un pouvoir législatif qui puisse faire en fait le contre-pouvoir et évaluer les chiffres qui sont donnés. Donc déjà ça fait un vrai problème de transparence, un vrai problème démocratique parce que on ne peut pas avoir et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire parce que jusqu'à récemment on se souviendra qu'en fait, les militaires étaient en train de rendre justice, même sur les affaires civiles. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Donc, en gros, je veux dire que l'état du siège n'a pas vraiment réussi là où on l'attendait. Et bien sûr, peut-être que c'est le temps de le lever. Pas pour des raisons, je ne sais pas, politiques ou pas, mais tout simplement parce que ça n'a pas réussi. Donc, c'est suffisant pour mettre fin et réfléchir sur d'autres.
Alors, vous soutenez donc ceux qui estiment, ceux qui pensent qu'il faut lever l'état des sièges, mais ça serait quoi l'alternative pour mettre fin à ces tueries qui s'amplifient quand même dans ces deux provinces?
Oui, lever l'état des sièges, ce n'est pas un positionnement politique. c'est juste du bon sens. Donc, une stratégie qui n'a pas réussi, on l'évalue et puis on essaye autre chose. Et donc, ce qu'il faut peut-être essayer, c'est de s'assurer, par exemple, qu'il y ait de vraies opérations sociales, de vraies opérations militaires, mais là où il en faut. Et c'est pour ça que l'idée de réfléchir en termes des zones opérationnelles, notamment, par exemple, à Beni, s'assurer qu'il y ait plus d'opérations, parce que ça, c'est, par exemple, quelque chose qui a échoué avec l'état de siège. Au même moment où on prend ça, en fait, il y aura plus d'actions militaires parce qu'il y a des militaires en charge. Il y a eu moins d'opérations militaires qu'avant l'état de siège. Donc ça, c'est étonnant. Donc il faut qu'il y ait plus d'opérations militaires là où il y a besoin d'en avoir. Mais il faut aussi s'assurer que la protection des civils soit au centre même de la stratégie. Parce qu'on a vu qu'il y a eu des moments où il y a eu vraiment quand même quelques réussites sur le plan militaire. Mais en fait, après, il y a eu aussi beaucoup de morts des civils. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y avait des opérations militaires, il y avait des représailles sur les civils. Donc, il faut s'assurer en même temps qu'on va combattre on fait face aux groupes armés, s'assurer qu'il y a aussi la police qui s'assure de la protection de ces zones-là qui sont soit conquises, ou après que les militaires puissent quitter des zones pour d'autres zones opérationnelles qui s'assurent que derrière eux, les populations sont protégées et ne vont pas subir des représailles. Et puis sur un autre aspect, c'est peut-être la question de renouer avec la population. L'état de siège a aussi eu cette conséquence sur la cohabitation entre les militaires et les civils. Et donc, il y a ce besoin-là de faire participer tout le monde, les civils, les forces politiques, mais aussi la société civile, à la construction de la paix, à la recherche de la paix. Mais malheureusement, l'état de siège, en mettant les militaires au pouvoir, a fait que, en fait, on a comme l'impression que seul le militaire est en charge de tout. Et donc la société civile n'a pas pu participer à la réflexion sur les solutions et sur la stratégie. Peut-être la dernière des choses,
oui.
c'était aussi le fait qu'il y a eu des projets de développement qui malheureusement n'ont pas avancé à cause de l'état de siège, parce qu'en fait, il y a beaucoup de partenaires, soit internationaux, bilatéraux et nationaux, qui avaient difficile, en fait, à interagir avec les militaires. Juste récemment, les équipes, notamment les différents ministères provinciaux, qui avaient la connaissance de beaucoup de questions, ne savaient pas, en fait, travailler, ce qui fait que c'est très difficile pour des partenaires d'avoir des gens avec qui discuter pendant l'état de siège. Et donc là, l'exemple c'est la question de l'eau à Goma. Il y avait ce projet pour créer une structure provinciale publique-privée pour la gestion de l'eau. Ça n'a pas avancé tout simplement parce qu'en fait, c'était un projet qui était commencé par les autorités civiles. Et quand les autorités militaires arrivent, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de mémoire institutionnelle qui puisse permettre à ce que ce qui était en cours puisse continuer. Donc ça, c'est
un défi,
et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence d'avoir les autorités civiles aux commandes.
Place à présent aux réactions des auditeurs. Monsieur le ministre Mindonzangi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Arika Songomulenda depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Moi, je pense que nous devons faire une évaluation très sincère de l'état de siège. À mon avis, avant l'état de siège égale après l'état de siège. Comment expliquer le pouvoir est entre les mains des militaires, mais les tueries persistent. Donc, il est important de bien évaluer les résultats et au besoin mettre fin à l'état de siège et réfléchir autrement.
Réaction, monsieur le ministre.
Je crois qu'il a raison. On a dit la même chose. Vous savez, c'est que nous tous trois sur le plateau, on a dit la même chose. Le constat est le même. L'état de siège n'a pas donné les résultats escomptés. C'est clair. Alors, là où on a la divergence, d'avoir qu'est-ce qu'on fait. Pour les jeunes, il faut absolument mettre fin à l'état de siège, faire revenir les civils, et la paix va revenir. Je dis non. Il faut, on doit faire très attention. Il faut savoir que l'identification des opérations qu'il ferait crée aussi un effet contraire. C'est-à-dire que les rebelles, les EDF, par exemple, lorsqu'ils ont été attaqués dans le Watanga, lorsqu'ils ont été attaqués par la coalition avec l'UPDF dans les Rwenzori, ils se sont concentrés dans les Bashu. Il y en a qui sont partis dans la partie Turi, dans Irumu, et d'autres qui partent dans Mambasa. Donc les opérations, c'est des actions qui entraînent des réactions, et malheureusement ces réactions, on n'a pas fait de grandes analyses pour l'anticipation de cette dispersion des EDF dans des zones où ils commettent beaucoup d'erreurs, ils commettent beaucoup de crimes, parce que ces zones, on n'a pas anticipé les faits qui devaient être là-bas. Je voudrais souligner aussi le deuxième fait, puisque moi je suis convaincu, comme le chef de l'État l'a dit à New York, que les EDF ou les autres groupes armés sont financés par des forces extérieures, notamment par les Rwandais. Et à ce stade ici, lorsqu'on a vu qu'il y avait une intensification des opérations sur les côtés nord, on a déclenché la guerre 2023. La conséquence a été telle que les forces armées armées démocratiques du Congo sont maintenant dispersées sur deux fronts, le front des deux natures. Et ce qui les empêche effectivement de pouvoir déjouer leur rôle. Donc, n'ignorons pas cela. Moi, je voudrais qu'on dise, nous tous au fait, on constate qu'effectivement, l'état de siège n'a pas apporté la réponse à l'insécurité telle que nous, on le souhaitait. Donc, le constat est le même. Quels sont les gouvernements, quels sont la population, lorsqu'on a circulé partout là-bas, on a vu qu'effectivement, qu'il y avait des problèmes. Maintenant, la question que nous devons nous poser à chaque Congolais, c'est de savoir, on remplace l'état de siège par quoi? Aujourd'hui, les dispositifs.
Vous avez parlé du plan de redressement.
De manière brutale. On doit dire, voilà, on arrête l'état de siège. Quelles vont être les conséquences après? C'est pour cela qu'effectivement, avec l'Assemblée nationale, on réfléchit sur ce qu'on appelle le plan de sortie de l'état de siège. C'est pour cela que vous avez trouvé que le Premier ministre a fait sa tournée avec les députés. Et je voudrais ici, sur ce plateau, que l'on ne parle pas que des côtés, il y a des députés qui veulent la fin de l'état de siège et le gouvernement qui veut prolonger l'état de siège. Non. L'état de siège, c'est la proposition qui est du gouvernement, bien sûr. Mais il est voté presque à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans le cas de la patrie, parce qu'on croit que des mesures qui sont proposées peuvent aider à mettre fin à la sécurité. Et donc, moi, je vous dis, on ne va pas
embrasser. Et donc, le gouvernement et l'Assemblée nationale vont donc réfléchir sur un plan de sortie de l'état de siège. C'est ce qu'on retient, monsieur le ministre?
Donc, le plan de sortie de l'état de siège, nous avons entamé ce discours. Avant, vous savez qu'à juin, le chef de l'État avait déjà dit que par rapport à l'évaluation qui a été faite, il devait avoir une table ronde avec tous les notables du Nord Kivu et de l'Ituri pour mettre fin à l'état d'ici. Ça, c'est à juin. Malheureusement, nous avons été attaqués par le M23 et dans ces circonstances-là, il était
empêché la tenue de la table ronde.
L'état d'ici du parc de cuisine lorsque le pays est attaqué par le Rwanda. Et donc, cette question de l'évaluation de l'état d'ici et de la proposition des plans de sortie de l'état de siège apaisé et réfléchi, et les médias à la table, et là, nous sommes tous unanimes qu'il faut absolument remplacer l'état de siège par autre chose.
Gratien de Saint-Nicolas, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kalemi, dans la province du Tanganyika.
Tchikout Nawesh Alain depuis Kalemi, dans la province du Tanganyika. Restituer le pouvoir aux civils ou pas, ce que nous voulons tous, c'est la paix à l'est du pays. Mais hélas, la durée de l'état de siège dans cette partie de la République pourrait avoir un impact négatif aux objectifs de Kinshasa. À ceux qui militent pour la levée de l'état de siège dans ces deux provinces du pays, qu'est-ce qui les rassure que la levée de ces derniers bougerait les lignes de l'insécurité dans ces coins du pays?
Gratien de Saint-Nicolas, comment vous répondez à Tchikout Nawesh depuis Kalemi?
Oui, je salue les gens de Tanganyika, hein. Mais je pense qu'il ne faudra pas qu'on donne l'impression que les militaires ne travaillent pas quand il n'y a pas état de siège. Tous les succès militaires que nous avons remportés en RDC, ce n'était pas avec l'état de siège. Donc aujourd'hui, les militaires eux-mêmes veulent montrer à la face du monde que s'il n'y a pas état de siège, c'est comme si l'armée n'existait pas. Non, même si on restitue les pouvoirs aux civils, l'armée va continuer à travailler à travers, par exemple, des zones opérationnelles. Nous avons remporté à l'époque les succès contre l'MV3, c'était avec une zone opérationnelle, il y avait un gouverneur civil. Quand vous vous souvenez de toutes les opérations qu'on a fait à l'Équateur avec Kenyele, avec les Kaminansatou, au Kassai, tout c'était avec les gouverneurs civils. Donc il ne faut pas que les militaires pensent que sans état de siège, il n'y a pas de travail. Ça, je le dis encore, c'est faux. Mais aussi, les gouvernements aussi ne nous aident pas. Voyez un peu, le premier ministre, il a quitté l'Ituri, il a quitté le Nord Kivu. Il a vu des faits réels. Il a écouté la société civile, il a écouté les deux sociétés civiles, il a écouté les deux notabilités des deux provinces. Il devrait revenir avec ses préoccupations et saisir immédiatement l'Assemblée ou alors, par respect à la représentation du peuple, venir devant nous, là, avant de prolonger, pour dire voici la situation que j'ai trouvé sur terrain, mais il ne l'a pas fait. Il va nous envoyer un vice-ministre de la justice pour pouvoir travailler sur ce dossier. Donc, quelque part, pour le gouvernement, ce n'est pas une urgence. Entre-temps, aujourd'hui, tout le monde sait que l'administration a dépassé les militaires. Au lieu d'aller vers le front, ils sont en train plus à chercher à recouvrer les recettes. Laissez ça. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations. On connaît parce que les militaires, ils sont débordés par l'administration civile. On sait aujourd'hui que les dossiers de justice, ça ne marche plus parce que la justice pénale est aux mains des militaires. Donc, il faut quand même qu'on soit réaliste dans tout ce qu'on est en train de faire.
Le ministre a parlé d'un plan de sortie qui est déjà sur la table, ça ne vous rassure pas?
Non, ça ne nous rassure pas, parce que depuis l'année passée, les plans de sortie, là, je dirais même que c'était depuis l'octobre de l'année passée, on n'est jamais sorti avec ces plans-là. Parce qu'évidemment, il faut être prudent, quelle est la disposition qu'on va prendre après l'état de siège? C'est le gouvernement qui gère l'armée, qui doit nous présenter ces plans-là. Là, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est là où, je me souviens, à l'époque, l'ancienne présidente Mabunda nous disait, avec l'état d'urgence sur le Covid, il disait, attention, on ne peut pas rompre une disposition ou un dispositif légal directement sans prévoir les plans de sortie, sinon vous risquez d'avoir la résistance de ces conflits, soit de la guerre sécuritaire ou alors de Covid, et là, ça peut créer des problèmes. Donc, il appartient au gouvernement de nous rassurer, nous, à l'Assemblée nationale, voilà, on va quitter, on va laisser l'état des sièges, mais qu'est-ce que nous allons faire? Voici les plans que nous allons faire pour que la sécurité puisse revenir. Je me réjouis aujourd'hui qu'il y a peut-être cette force régionale, mais aussi on sait qu'il y avait la MONUSCO qui était là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la MONUSCO n'a pas bien mené sa mission? Il ne faut pas aussi qu'on puisse rentrer aujourd'hui dans la même situation où la force régionale aussi arrive, mais ne parvient pas à travailler. Donc, il y a beaucoup d'efforts en interne que nous devons d'abord réaliser avant de pouvoir inviter même les partenaires extérieurs à pouvoir nous aider.
Monsieur Régal Miviri, on va prendre aussi cette dernière réaction pour vous qui nous vient de Bounia.
À mon dédit, depuis la ville de Bounia en Ituri, de prime abord, je pense que l'état des sièges a démontré clairement ses limites face aux groupes armés qui sont terreur et désolation dans la partie est du pays. C'est pourquoi, lors de la dernière tournée de son excellence, monsieur le Premier ministre, lors de l'évaluation de l'état des sièges en Ituri, les forces vives, la société civile, ainsi que les députés provinciaux ont simplement demandé la levée immédiate de ce fameux état de siège qui n'a pas apporté son fruit sur le plan sécuritaire.
Cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure. L'état de siège n'a pas porté des fruits. Il faut qu'on puisse lever cette décision très rapidement par le gouvernement. On a suivi le ministre Mouindo qui nous a parlé d'un plan de sortie de l'état de siège. On ne peut pas lever l'état de siège sans savoir ce qui va se faire après. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, je pense qu'il faut avoir, il faut savoir ce qu'il faut faire après, mais je pense que peut-être on a déjà un début de réponse. L'alternative à l'état de siège, c'est l'État. Parce que, en fait, l'état de siège, c'est l'exception. La règle, c'est avoir un État. Et avoir un État, ça signifie, en fait, les militaires au front, l'Assemblée nationale à sa place, le gouvernement à sa place, le Parlement, le président à sa place. Et ça, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. On parle toujours des réformes dans l'armée, on parle de réformes des institutions, tout ça. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, mais je pense qu'il le faut. Donc, il ne faudrait pas essayer chaque fois de raccourcir en pensant que l'état de siège va tout résoudre. On doit se mettre dans un processus de réforme et de création d'un État. Ça sera ça la solution à l'insécurité. Parce qu'en fait, on a eu des réussites parfois, des batailles gagnées, mais en fait, après, parce que l'État n'est pas revenu dans ce point où il y a eu même des reconquêtes, alors là, les groupes armés ont repris encore le territoire. Donc, toutes les démarches du gouvernement et du Parlement doivent surtout se mettre dans la perspective de créer un État. Bien sûr, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut d'abord qu'on voit déjà des signaux qui vont dans le sens de créer un État fort et un État qui respecte les principes démocratiques.
Avec la loi de programmation militaire, c'est déjà un pas qui montre la volonté de l'État de pouvoir reformer l'armée, d'avoir une armée forte afin de mettre fin à cette situation d'insécurité dans la partie est de la RDC.
Je veux bien qu'il y ait un plan, mais sur base de quel diagnostic? C'est ça le problème, en fait. Je ne suis pas sûr que les diagnostics qui a poussé que l'on puisse arriver à ce plan-là, il est unanime. Est-ce qu'on a fait participer les forces vives de la nation, mais aussi en fait les experts, pour qu'ils puissent donner leur lecture, en fait, que l'on puisse décider d'une stratégie nouvelle de réforme à avoir dans l'armée. Je pense que ça, c'est important. Ça, il ne faudrait pas que ça soit une réforme de plus, mais qui ne touche pas sur le fond du problème. Parce que le fond du problème, surtout dans l'armée, ce sont les effectifs, mais c'est aussi en fait du sens même, la mission même de l'armée. Ça, c'est des choses qui demandent en fait un consensus national.
Merci, Maître Rigel Miviri. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de notre magazine. Monsieur le ministre Muyindo Nzangi, vous nous avez parlé de ce plan de sortie de l'état des sièges. On a suivi le député Irachan nous dire que ce plan existe depuis longtemps, mais c'est des reports en report. Pourquoi on ne le met pas sur la table maintenant, en discuter et finalement trouver l'alternative?
Oui, je crois que tout le monde doit réfléchir comme les Congolais. On n'est pas au ciel. On sait qu'au mois de juin, il y avait déjà un plan et que ça devait être exécuté. Nous tous, on savait qu'à partir du mois de juin, l'état de siège allait prendre fin. Il y a eu l'attaque du M23 qui a retardé le plan. Dans ces circonstances-là, tout Congolais sait qu'on ne pouvait pas envisager de perturber le fonctionnement de la province parce qu'il fallait faire face à l'agression. Aujourd'hui, on est tous unanimes qu'il y a la volonté de mettre fin à cette guerre. Cette volonté est affichée clairement par le président Félix Tshisekedi, qui a tenté, contrairement à ce qui était avant, qui a tenté de mettre fin à cette guerre par l'opération de Grande Avenue, par l'état de siège, et aujourd'hui, il va remplacer par autre chose. Bien sûr, l'objectif ultime pour nous tous, c'est de dire comment on met fin à l'insécurité, et c'est ça l'essentiel de ce que nous devons retenir. La volonté, elle est là. Nous devons nous mettre tous au travail. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire du Parlement, c'est une affaire de tous les Congolais. Et moi, ça, ça n'engage que ma personne. Je crois que, au-delà de tout ce qui peut être proposé, la question de la structuration de l'autodéfense des populations, elle doit être aussi remise sur la table pour que la population elle-même participe à la sécurisation de ses entités et de la population.
Merci, Monsieur le ministre Gracian Saint-Nicolas. Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri, votre conclusion?
Ma conclusion est simple. Il faut que nous puissions toujours être aptes à mettre en exécution les différentes résolutions. Si aujourd'hui on avait mis en exécution les résolutions et recommandations de la Commission de défense et sécurité, on n'aurait pas eu aujourd'hui l'évasion des M23 dans le Nord. Donc c'est parce qu'il y a eu des retards, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on devrait résoudre dans cette partie de la République. Je termine en disant qu'il faudra quand même que les institutions et la population, c'est très important. Parce que si on avait mis les recommandations de la Commission défense et sécurité, aujourd'hui on aurait évité l'évasion de Nord qui vous parle de M23. Donc nous devons travailler avec courage, en sachant que le danger est permanent dans un pays.
Merci, Gracian de Saint-Nicolas Irachan. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Paul Badianyama qui est à la mise en onde. Ce magazine a été réalisé par Guy Maté et Duna Madimba. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.